Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul à Tite. Ce matin, on va continuer le livre de Tite qu'on a entamé la semaine dernière. Avec mon père et Joanne, on va faire un suivi de l'ensemble de l'épître à Tite. Et aujourd'hui, on a du lourd, du dense, hein. Il va falloir se tenir. Surtout le conseil pastoral, il va falloir bien écouter. Hein. La semaine dernière, mon père a présenté les quatre premiers versets en introduction à l'épître à Tite. Et on a vu qu'une église était implantée avec des serviteurs consacrés. Et vous avez pu en reparler en groupe de maison, l'engagement, l'appel du serviteur, parler du ministère du serviteur, reparler du dévouement du serviteur. Donc on avait vu que Tite avait une pleine confiance de Paul, que c'était un peu son fils adoptif, qui était ce serviteur fidèle que Dieu pouvait utiliser, qu'il avait obtenu de Paul l'autorité, une délégation apostolique pour travailler en Crète. Et c'est pourquoi Paul l'encourage au chapitre 2, verset 15, quand il dit « Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » Tite avait une mission envoyée par Paul et aujourd'hui, on va voir la base de sa mission confiée. Donc la semaine dernière, on a vu qu'une église était implantée avec des serviteurs consacrés. Aujourd'hui, nous allons parler d'une église bien établie. Je ne sais pas si vous arrivez à bien lire. On peut peut-être éteindre le premier rang de luminaire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image. Est-ce que vous reconnaissez le pays ? L'Inde. Heureusement, c'est écrit Rajasthan, quelque chose en dessous, là. Udaipur. C'est l'Inde. Bon, ce n'est pas comme ça partout. Mais il paraît que c'est une catastrophe de se déplacer en Inde. Vous voyez ? Est-ce que vous trouvez une voiture qui sait comment traverser les autres ? Comment traverser ce carrefour ? Impossible. Chacun arrive en même temps, dans tous les sens. Au final, blocage total. Celle-là, elle est meilleure, non ? Pareil, j'arrive pas à comprendre comment on s'en sort. Donc, je me dis un petit tour en hélico, en avion, ça sera déjà pas mal. En France, on a aussi la même chose parfois dans les hôpitaux, aux urgences, où on n'a pas assez de place, où on met les malades, ceux qui sont en attente, dans les couloirs, là, il y en a 6, 7, 8. Et il y a urgence, mais pas les moyens de s'en occuper. Même à l'hôpital marchand, il y a ce problème. Ce que je veux juste souligner, c'est qu'on ne peut pas accumuler les urgences et on ne peut pas avancer sans direction, sans signalisation claire. Et en effet, il y avait urgence dans les églises de Crète. Mon père en a parlé. La dernière fois, il parlait de l'urgence d'avoir des serviteurs fidèles. Mais Paul a donné une mission spécifique à Tite. Il y avait urgence. Urgence que l'église de Christ s'organise et se développe, non pas selon le caractère des Crétois, qui étaient connus, on a lu la dernière fois, comme étant des gens toujours menteurs, des méchantes bêtes, des ventres paresseux. Non plus d'établir une église suivant les faux docteurs, dont était écrit qu'ils enseignaient pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner, mais pour qu'elle s'organise à l'image de Jésus-Christ, qui est la tête, en se fondant sur une organisation établie par Dieu, suivant des valeurs morales, des valeurs spirituelles de Dieu et ancrées dans la parole de Dieu. Alors le texte que nous allons explorer aujourd'hui décrit qu'une église bien établie a besoin de s'appuyer sur un collège d'anciens. Une église bien établie s'appuie sur des anciens irréprochables. Et une église bien établie s'appuie sur des anciens qualifiés. Et donc maintenant que vous avez eu le temps de trouver l'épître à Tite, je vous invite à lire les textes, chapitre 1, les versets 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ce matin, nous allons faire un survol. Parce qu'il faut reconnaître que chaque attribut, qualification mentionnée mériterait une prédication, n'est-ce pas? Et ce matin, on veut voir ce survol, pour voir le plan de Dieu pour l'Église et pour les anciens. D'abord, une Église bien établie, qu'est-ce que je raconte? S'appuie sur un collège d'anciens. L'urgence était bien là, celle d'établir des anciens. Et dans chaque ville, comme est écrit au verset 5, chaque ville signifiait dans chaque église. Parce que dans l'église primitive, on n'avait peut-être pas la chance d'aujourd'hui, mais tous les croyants d'une ville allaient dans la même église. Commençons par regarder avant qu'est-ce qu'un ancien. C'est sûr que le texte n'en parle pas, mais comment est-ce qu'on pourrait approcher ce texte sans redéfinir ce qu'est un ancien dans le Nouveau Testament. Et pour cela, je vous invite à lire Actes 20, 28, ce texte qu'on a étudié en groupe de maison l'année dernière et qui définit bien le rôle de l'ancien. C'est Paul qui s'adresse aux anciens et qui leur dit « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. » Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. On voit toute une responsabilité devant Dieu et un cœur, un fardeau de Paul, un cœur, un fardeau de Dieu pour son Église dont il faut prendre soin. Alors, les anciens dans le Nouveau Testament, on retrouve quatre mots qui reviennent régulièrement. Et on avait vu l'année dernière que les mots anciens, évêques, pasteurs sont des mots plutôt interchangeables. On retrouve les mêmes hommes derrière ces mots. On retrouve aussi le mot conducteur qui désigne les responsables d'église. Alors quand je vais vous parler d'anciens ce matin, je vais parler de tout ça en même temps. Je ne vais pas faire forcément le distinguo. On voit bien qu'il y a une fonction de direction et qu'en fonction des divers noms, en fonction de ce qu'on veut mettre en valeur, on prend tel ou tel nom dans la Bible. Alors, ancien, qu'est-ce que ancien? Le premier mot, ancien, celui de gauche, pas celui au sens tous regroupés. L'ancien souligne la dignité de l'office. Il souligne, on va dire, ce sont les responsables, les leaders de la vie communautaire. C'est eux qui dirigent l'Église, qui organisent l'enseignement aux adultes, enfants. Et ici, en Tite, au verset 5, il s'agit du mot original presbyteros, qui signifie littéralement ancien. Ça veut dire qu'un ancien est un ancien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de la maturité, de la sagesse, de l'expérience, de la stabilité. C'est quelqu'un qui a été testé dans sa foi, qui a été établi et en qui on peut avoir confiance. Un deuxième mot qui est beaucoup utilisé, ce sont les deux mots les plus utilisés, ancien et évêque. L'évêque, qu'on retrouve au verset 7. Et dans l'original écrit « épiscopos », il souligne la fonction. On parle d'un surveillant, on parle d'un gardien. Donc l'ancien était plutôt, le mot ancien était plutôt sur la notion de dignité, de responsabilité. L'évêque est plus dans la notion de la fonction, du surveillant. Et il est surveillant des différents secteurs, du fonctionnement des différents services dans le corps de Christ. Il peut être aussi surveillant, on voit dans l'Ancien Testament avec des mots qui sont très proches de la construction, de l'administration financière. Un autre mot, conducteur. En hébreu 13, on trouve ce mot, je ne sais pas comment on le prononce, hégiomai, qui signifie conducteur, leader, commandant, dirigeant. Il décrit la position d'un guide, qui indique la direction par son exemple, son influence, son conseil. Donc en fait, un conducteur est quelqu'un qui marche devant un troupeau, qui sert de modèle, qui conduit et les gens le suivent. Et un dernier mot, qui est aussi plutôt transversal, pasteur, poimen, qu'on trouve en 1 Pierre 5, dans les versets 2 à 4, où Pierre parle du grand berger qui est Jésus et qui parle aussi des leaders qui doivent être des bergers comme le grand berger. Pasteur décrit le travail qui est accompli à l'égard des brebis, le travail pastoral. Il signifie berger du troupeau. Il est appelé à nourrir, diriger, protéger et prendre soin des brebis. C'est important de comprendre que les leaders d'église sont appelés avoir ces différentes fonctions en tant qu'anciens mis en place. Alors, à quoi ressemblait l'Église dans le temps de l'Église primitive? L'Église reposait sur un gouvernement collégial, avec le modèle qui existait déjà à l'époque, peut-être le Sanhédrin, qui est du côté politique, les synagogues avaient un fonctionnement collégial. Et donc, il était très naturel de continuer sur ce fonctionnement collégial. Et on voit que son fonctionnement est dans l'ensemble des églises établies. La Bible décrit la direction de l'Église sous plusieurs aspects. Alors, on n'a pas le temps de les détailler aujourd'hui. Et vraiment, ce n'est pas le cœur du passage. Aujourd'hui, on veut se concentrer sur les qualifications. Mais il faut savoir que la direction de l'Église, elle ne repose pas sur une personne. Elle repose sur un collège d'anciens. Un collège d'anciens qui a une direction pastorale. Comme on a vu tout à l'heure, prendre soin, diriger, nourrir. Une fonction pastorale dans la direction. Une direction qui est partagée, qui ne dépend pas d'un homme et qui dépend de plusieurs anciens. On ne trouve pas dans le Nouveau Testament Paul qui s'adresse à un ancien. Alors il peut s'adresser à Tite, à Timothée, mais quand on s'adresse aux anciens d'une église, on s'adresse aux anciens, à un collège d'anciens. C'est aussi une direction masculine. On l'a lu dans le texte, on ne va pas s'éterniser. On parle d'un ancien, contrairement au mot diacre, où il peut avoir aussi le mot diaconesse, il n'existe pas de mot ancienne, il n'existe pas non plus surveillant au féminin. On parle d'ancien masculin. Et on a bien vu qu'il est écrit « mari d'une seule femme ». Donc, il n'y a pas de sujet sur ce thème. Ensuite, leader. Les anciens sont des leaders responsables. Et à travers tout ce qu'on a lu, on voit bien quelle est la responsabilité morale qu'ils portent, mais aussi la responsabilité par rapport à la parole de Dieu et par rapport aussi à veiller sur les brebis. Et une direction de leader serviteur. Leader serviteur à l'image de Christ, qui était le premier à être venu pour servir et non pour être servi. J'insiste là-dessus parce que je pense que souvent on a une vision erronée de ce que devait être la direction dans l'Église. Un docteur, Espine, a conclu dans une étude sur les anciens, et je cite, nous n'hésitons pas à dire que la restauration du pastorat collectif exercé par un véritable collège d'anciens est une des premières conditions du renouveau spirituel dont nos églises ont besoin et qu'elle constitue par conséquent une des tâches les plus urgentes. En fait, la structure, l'organisation établie dans une église est primordiale. Toute société, tout fonctionnement a besoin d'un cadre pour marcher. Et ce cadre a beaucoup de conséquences sur l'ensemble de la vie collective, l'ensemble des ministères. Donc c'est essentiel et ce n'est pas à prendre à la légère. On parle beaucoup de la scène du baptême dans l'église, c'est vrai que c'est des choses très importantes. Mais la Bible parle plus du rôle des anciens. Et pourtant, c'est un sujet qu'on met souvent de côté. Dans la parole de Dieu, l'église est souvent décrite comme le corps, l'épouse, le temple, le troupeau, une famille intime et aimante de frères et sœurs rachetés. Et chaque disciple, chacun d'entre nous, tous ceux qui, en tout cas, qui appartiennent à Jésus-Christ sous la nouvelle alliance, qui a été ratifiée par le sang de Jésus, comme l'a rappelé notre frère, chacun est saint, un prêtre royal, un membre du corps de Christ auquel l'Esprit a accordé ses dons. Et chacun, on fait partie d'une communauté d'humbles serviteurs sous la direction du grand berger qui est Jésus-Christ, le souverain berger. Alors tout ce qu'on va voir sur les anciens, ce sont des exemples, ils sont appelés à être des modèles d'humbles serviteurs comme Jésus-Christ. Ils sont appelés à être des seconds bergers à l'image de Jésus. Des modèles parmi le troupeau. Mais la grande autorité, c'est Jésus. Amen. La meilleure autorité dans une église, c'est l'exemplarité d'une vie consacrée à Dieu, d'une vie conforme à Jésus. Et c'est pour ça que les versets qui suivent fixent le modèle dont doit suivre l'ancien. Alors, tous les chrétiens devraient aspirer à ces qualités. Les qualités qui sont nommées dans ce texte ne sont pas des qualités que pour les anciens, ce sont des qualités pour tous les chrétiens dont les anciens doivent être modèles, doivent être exemplaires, doivent être pour diriger, pour conduire, pour montrer et dire aux gens « Allez, venez avec moi », il faut d'abord montrer l'exemple. Donc on a vu qu'une église repose sur un conseil d'anciens collégial et doit s'appuyer sur des anciens irréprochables. Et c'est là le cœur du texte. J'aime bien la paraphrase du docteur Bruce qui décrit « Voici la raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète. Je voulais que tu mettes en ordre ce qui reste à faire et notamment que tu établisses des anciens dans chaque ville conformément à mes directives. Souviens-toi de mes instructions quant au type d'homme qui convient pour la charge d'ancien. Il faut que ce soit un homme irréprochable. Celui qui exerce le leadership pastoral doit être sans reproche parce que c'est ce qui convient à un économe de la maison de Dieu. » En fait, toutes ces listes de vertus de l'ancien ne sont pas celles des hommes. Si vous essayez de faire un parallèle avec comment ça marche dans vos entreprises, comment ça marche ailleurs, vous allez vous tromper. Les qualités que Dieu donne sont des qualités divines. C'est Dieu qui a fixé le cadre. Et peu importe l'époque, peu importe notre église, le cadre reste le même. D'abord, irréprochable. Irréprochable. Irréprochable signifie non accusé. Ceux qui dirigent l'église doivent être irréprochables. En fait, cette condition constitue aussi en Timothée 3 le fondement. Vous avez trois grands textes qui parlent du rôle des anciens, hein, Timothée 3 et également 1 Pierre 2 de mémoire 2 à 5. La condition, le fondement, la première chose qui est regardée chez un ancien, c'est son irréprochabilité. On parle ici de quelque chose. Comment j'essaie de le tourner correctement, qui ne puisse diminuer son autorité. Si l'ancien est irréprochable, son autorité ne sera pas remise en question. Si l'ancien a quelque chose à reprocher, son autorité sera remise en question. Il faut donc qu'il ait une parfaite réputation. en toute chose. C'est ce que dit Jean Calvin. L'ancien doit avoir une parfaite réputation. Tout le reste, tout ce qu'on pourra dire par la suite, repose finalement sur cette irréprochabilité. C'est un peu le filtre par lequel on regarde toutes les qualifications. Alors, ce n'est pas écrit que l'ancien doit être parfait. Sinon, il n'y en aurait plus dans les églises. Et sinon, on irait se cacher. Mais il est écrit qu'il doit être irréprochable. Il doit être en règle devant Dieu et devant les hommes. Il doit être modèle. Alors, il y a deux grands domaines qui suivent de l'irréprochabilité. Ce sont les domaines de la vie conjugale et sexuelle et de l'éducation des enfants. Premièrement, mari d'une seule femme. Alors, sans aller dans le détail, parce que vraiment, on n'a pas le temps de tout regarder dans le détail ce matin, mais on a besoin de résumer ce qu'est cette notion. Si on regarde la lumière de comment est expliqué le mariage dans le Nouveau Testament et ce que demande la Bible aux anciens dans leur rôle en tant que mari, on peut se diriger vers deux grandes, on va dire, interprétations. Moi, j'ai une préférence pour la première, celle de commentateurs comme Strauss, Kuhn et MacArthur. Et pour vous expliquer ce que « mari d'une seule femme » signifie, on va d'abord dire ce que ça ne signifie pas dans ce texte. D'abord, ça ne signifie pas que les anciens doivent être mariés. Il y a d'autres passages dans la Bible qui mettent en valeur le célibat, un célibat qui permet de se consacrer à temps plein au service de l'Éternel. Donc ce texte ne dit pas que l'ancien doit absolument être marié. Ce texte ne dit pas non plus qu'il ne doit pas être polygame. Attention, vous allez me dire comment ça, il ne doit pas être polygame. Bien sûr, ce texte dit qu'il doit être monogame. Mais ce texte ne met pas en valeur la polygamie, il met en valeur la monogamie. En fait, cette notion, on parle du rôle des anciens. Pensez-vous que dans la pensée des chrétiens, il était possible d'envisager la polygamie? Non, c'était impossible. Donc quand on demande à un ancien d'être modèle, on ne parle pas de la polygamie, on lui demande d'être modèle. À cette époque, quelque chose qui était courant, c'est le divorce. Chez les Juifs, pour un oui ou un non, on divorçait, on se remariait. Et Jésus a pointé du doigt ce sujet en disant que ce n'était pas le plan de Dieu à l'origine qui a fait l'homme pour une femme. Donc ici, on parle davantage du fait que cet ancien doit être quelqu'un de fidèle, évidemment monogame, et que cette relation de fidélité, cet attachement à une personne, est dans le respect, conforme à la parole de Dieu, légitime, dans une relation qui glorifie Dieu. Ce n'est pas écrit non plus que les anciens n'ont pas le droit de se remarier. Il y a d'autres passages qui expliquent qu'on peut se remarier. Il y a le cas particulier du divorce qui peut amener à la polémique et qui peut être compliqué en fonction des cas également. Mais il y a aussi celui du veuf qui peut se remarier. Et donc, juste pour dire que ce passage ne parle pas du remariage non plus. Donc finalement, qu'est-ce que veut dire ce texte par « mari d'une seule femme » ? Il indique plutôt que les anciens doivent être irréprochables dans leur vie conjugale et sexuelle. Il souligne la pureté intérieure et la pureté extérieure sexuelle. Les leaders doivent être des leaders dans le sujet de la sexualité, dans le sujet de la famille, dans le sujet de la relation avec leur femme. Ils doivent être des modèles, des exemples de vie conformes à la parole de Dieu. Alors bien sûr, on pourra toujours polémiquer, avoir des opinions divergentes sur la question d'un cas qui se remarierait, qui divorcerait et qui voudrait exercer le rôle d'ancien. Mais j'ai envie de dire que la question qui subsiste est de savoir, avant tout, si nos guides, nos leaders, sont l'honneur de Jésus dans ce qu'ils font, par la fidélité à sa parole, l'exemplarité et la prière. Ils doivent se comporter comme des exemples. Voilà ce que nous devrions retenir de ce mari d'une seule femme. Alors, on a vu qu'il était irréprochable et que ça passait par mari d'une seule femme. C'est également écrit qu'il doit avoir des enfants fidèles. Encore un sujet qui est difficile à interpréter. Cette notion de enfant fidèle, on parle ici de l'exercice du contrôle sur les enfants, l'éducation des enfants. Alors, ce sujet départage beaucoup sur le mot fidèle. Et je ne suis pas apte à arbitrer. J'ai une préférence pour une première version que je vais vous donner, mais je vous donnerai aussi l'autre version des commentateurs. Ma préférence, qui est plutôt celle de commentateurs comme Strauss ou Kuhn, c'est la traduction des enfants fidèles. Nous, c'est la traduction que nous avons, mais des versions de la Bible parlent d'enfants croyants. La traduction des enfants fidèles me semble, même si je ne suis pas expert, plus proche du texte que celle des croyants. Il ne s'agit pas ici d'opposer les croyants, les enfants croyants aux enfants non croyants. Il s'agit plutôt d'opposer ceux qui sont obéissants et qui sont respectueux à leurs parents, à leur foi, à leur cercle familial, que ceux qui vivent sans loi ni loi, que ceux qui vont partir dans la débauche et l'immoralité, la désobéissance, malgré l'enseignement des parents. Donc la question d'interprétation repose sur le mot « fidèle ». Parce que le mot « fidèle » est une bonne question. Comment peut-on être fidèle et non-croyant ? Quelque chose qui peut nous aider à comprendre ce texte, c'est d'aller chercher un autre texte. Celui en 1 Timothée 3, verset 8. Comme je vous disais tout à l'heure, 1 Timothée 3 parle beaucoup du rôle des anciens et on a beaucoup de mots similaires avec Tite. Et ce verset 8 indique que l'ancien doit tenir ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Timothée ne parle pas d'enfants qui doivent être croyants, mais il parle d'enfants qui doivent être soumis et dans une parfaite honnêteté. En effet, on ne peut pas mettre le poids et la totale responsabilité des parents sur la conversion de leurs enfants. Ça serait oublier que chaque âme qui se convertit, qui vient au Seigneur, est un miracle de Dieu. Mais bien sûr que les parents ont une part prépondérante et sont responsables devant Dieu. Et la suite marque bien la différence entre l'enfant qui est fidèle et celui qui est accusé de débauche ou qui est rebelle. Des enfants qui ne sont pas obéissants aux parents montrent l'incapacité de l'ancien à les tenir dans son éducation. Ces derniers doivent obéir, respecter, même s'ils ne croient pas au même Dieu que leur père. Alors ça, c'est ce que je crois. Mais je vais vous donner l'autre interprétation, parce que je trouve difficile l'interprétation de ce mot fidèle. Une autre interprétation, notamment de John MacArthur, j'apprécie beaucoup les commentaires de John MacArthur, indique que ce mot fidèle ne peut pas être assimilé à quelqu'un qui n'est pas croyant. Sur sa version, on va dire passive, c'est l'étymologie, c'est l'origine des mots, dans le Nouveau Testament, on retrouve toujours cette notion de fidélité associée à la foi, associée à quelqu'un qui croit en Dieu. Donc ce mot, qui ne sort pas de nulle part, a d'autres exemples dans le Nouveau Testament où ce mot est associé à la foi. Et comment pourrait-on parler d'enfants qui sont dans la débauche et qui sont rebelles? Moi, je ne vois pas mes enfants. Bon, vous allez me dire qu'ils sont encore jeunes. Mais pour arriver au stade de débauche, il faut quand même être, j'ai envie de dire, quasi adulte, n'est-ce pas? Ce sont des enfants qui peuvent aussi être adultes. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais mes enfants, ça y est, ils ont quitté le cercle familial depuis longtemps. Je n'ai plus la main sur eux. Je prie pour eux, mais je n'ai plus la main sur eux. Là, la notion de rébellion et de débauche dépasse le stade du petit enfant, mais de celui qui a guéri, qui a peut-être déjà quitté le cercle familial. Bon, bref, pas facile à interpréter, mais dans tous les cas, l'ancien devra être jugé sur sa capacité à tenir sa maison, à éduquer les enfants et à démontrer une famille irréprochable. Dans tous les cas, les enfants doivent montrer de la soumission aux parents, croyants ou pas croyants. Pas facile hein, d'être ancien. Hein. Irréprochable. Parce qu'il est écrit plus loin au verset 7, parce qu'il faut que l'évêque, il faut que l'évêque soit irréprochable. Et ce verset 7a, il insiste sur irréprochable. Pourtant, Paul a déjà utilisé le mot. Pourquoi il a besoin de le réutiliser? Pardon. Le mot « car » met en lumière une raison profonde qui oblige l'ancien à être irréprochable. Car il est l'économe de Dieu. Il doit, il ne peut pas être autrement qu'irréprochable, car il est l'économe de Dieu. Il doit être capable d'abord de gérer sa propre maison. Qu'est-ce que t'es un économe? Un économe, c'était un gérant, un administrateur d'une maison, c'était l'intendant des biens de quelqu'un d'autre. Et Timothée, lui, au chapitre 3, verset 5, il indique, Paul indique, « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» L'ancien est l'économe de Dieu. Et c'est pas pour rien qu'on passe du mot « ancien » au verset 5 au mot « évêque ». Parce qu'on passe plutôt dans l'aspect de la fonction que de la dignité. L'ancien, l'évêque, est économe de Dieu. Donc l'ancien doit être moralement et spirituellement irréprochable pour pouvoir être l'intendant de Dieu dans sa maison. Notons l'insistance de Paul qui ne parle pas de l'intendant de l'Église. Il parle de l'intendant de Dieu, de l'économe de Dieu. Parce que qui est le propriétaire de la maison? C'est Dieu. Ce ne sont pas les membres, ce ne sont pas les anciens. Dieu est le propriétaire. La maison appartient à Dieu. Et donc l'ancien est économe de Dieu. Ces points qui montrent l'ancien irréprochable, en fait, sont des points qui pointent du doigt ce qui disqualifie un ancien dans une assemblée. On est plutôt sur la négation. Et c'est pour ça que Paul continue avec 5 vices. 5 vices, 5 points qui sont pointés du doigt et qui montrent que si l'ancien rentre dans une de ces cases, dans un de ces vices, il devient réprochable, il ne devient plus irréprochable et il ne peut pas exercer ce rôle d'ancien. Je pense qu'en tant qu'Église, nous aimerions que nos anciens soient responsables comme ils seraient de leur propre famille, de leur propre bien et qu'ils le fassent correctement. De la même façon, Dieu veut que les anciens soient intègres, responsables. Premier vice qui est mentionné, qu'il ne soit ni arrogant. Alors, en Matthieu 20, il est écrit concernant Jésus, c'est Jésus qui s'exprime, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Tout à l'heure, j'ai donné cet exemple, Jésus-Christ, le souverain berger. Si lui est venu pour nous servir et pas pour être servi, à plus forte raison, chacun d'entre nous sommes là pour servir et ne pas être servi. Et l'ancien est un modèle, doit être le modèle de quelqu'un qui est au service des autres et non quelqu'un qui se sert. Il est serviteur de Dieu. Il n'a aucune raison d'être arrogant puisque la maison ne lui appartient pas, puisque la maison appartient à Dieu. La grâce de Dieu dans notre vie doit se refléter dans notre rapport aux autres. On doit approcher chacun, nous sommes membres les uns des autres, nous approcher avec grâce et humilité dans cette maison qui appartient à Dieu. L'ancien n'est ni colérique. En Exode, il est écrit, Exode 34, verset 6, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Ce passage-là traverse toute la Bible et beaucoup répété. On répète beaucoup que l'Éternel est lent à la colère et il est miséricordieux. Si l'Éternel est si lent à la colère, pourquoi ses intendants, ses ambassadeurs devraient être colériques? Bien sûr que non. Et Jacques insiste au chapitre 1 en disant que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc les anciens doivent être des gens qui ne sont pas colériques. Ils ne doivent non plus pas être adonnés au vin. On connaît tous ce passage en Éphésiens qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Le disciple doit rechercher la plénitude de l'esprit. Il doit écarter toute autre servitude dans sa vie. On parle du vin, dans Éphésiens on parle de l'excès de vin, mais on parle beaucoup de, à travers ça, de toute forme de servitude. On aurait pu parler de la drogue ou d'autres formes de servitude, la pornographie. L'ancien doit être exemplaire. L'ancien ne doit pas non plus être violent. En Romains 12, Paul exhorte en disant « Soyez en paix avec tous les hommes. Notre Dieu est un Dieu de paix. » Les anciens sont souvent appelés à régler des conflits forts en émotion entre peut-être personnes, des conflits liés peut-être à des points particuliers doctrinaux. S'ils ne savent pas eux-mêmes se maîtriser, comment pourront-ils diriger avec amour, avec bienveillance, avec patience les brebis, plutôt que de les blesser? L'ancien ne doit pas être violent. L'ancien ne doit pas non plus être porté à un gain honteux. Je ne vais pas lire, on n'a pas le temps, mais en 1 Timothée 6, Paul décrit bien que notre ministère, on n'est pas là pour gagner de l'argent ou s'enrichir. Il finit en disant à Timothée, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » On n'est pas appelé à aimer l'argent, surtout quand cet argent ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. L'ancien doit être désintéressé, car il est l'économe de Dieu, la maison dont Dieu est propriétaire. Donc, tous ces points, comme j'ai dit, chaque point pourrait être beaucoup plus développé, pourrait être même une prédication. Mais tous ces points montrent la nécessité de l'ancien d'être irréprochable. Et tous ces points pointent du doigt ce qui disqualifie quelqu'un dans la direction de l'Église. Ensuite, en opposition, on va être un peu plus positif, Paul décrit ce que un ancien, les qualifications d'un ancien, ce que l'ancien devrait être. On a vu jusqu'à présent ce qu'il ne devait pas être. Maintenant, on va voir ce qu'il devrait être. Cette qualité qui le qualifie, et on est encore sur le savoir-être. Vous voyez, la part du savoir-être de la personne est prépondérante dans ce texte. D'abord, l'ancien doit être hospitalier. En 1 Pierre 4, verset 9, il est écrit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » C'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, cet ordre s'applique à tous les chrétiens. Et en fait, c'est un ordre. Je ne sais pas si on réalise dans l'Église, mais l'hospitalité, c'est un ordre. Nous devons nous accueillir les uns les autres. Ce n'est pas comme si on avait le choix. C'est révélateur de notre relation à Dieu, de notre compréhension du corps de Christ. L'hospitalité. Et l'ancien doit être un modèle d'hospitalité. Cet exercice s'inscrit dans un contexte d'amour fraternel plus large. Je pense que beaucoup ne se rendent même plus compte de l'importance de l'hospitalité. Si dans l'église locale, nous n'exerçons pas l'hospitalité, nous allons nous dessécher. Nous allons devenir indifférents aux besoins des uns et des autres. Se consacrer aux frères et sœurs, encore plus au troupeau de Dieu, comme il est demandé aux anciens, c'est partager sa vie. Ouvrir sa maison, c'est aussi montrer parfois la poussière qui reste. C'est montrer qu'on est imparfait. Ouvrir sa maison, c'est aussi ouvrir son cœur. Si je reçois mais je n'ouvre pas mon cœur, à quoi bon? Une maison accueillante, c'est la preuve d'un cœur ouvert, d'un esprit d'amour, d'un esprit de sacrifice, de service. Et je pense que le manque d'hospitalité traduit notre christianisme égoïste, dénué de vie et d'amour. Que les responsables d'église soient des exemples dans l'hospitalité. Ensuite, qu'ils soient amis des gens de bien. Et le très bon exemple est celui de Job. Job qui était décrit par ses amis comme quelqu'un qui voulait et qui aimait avant tout le bien. Le lexique grec définit le terme bien par décrit le terme ami de gens de bien ou ami du bien par celui qui volontairement et avec abnégation fait le bien ou se montre bon. Le dictionnaire théologique, lui, du Nouveau Testament déclare que selon l'interprétation de l'Église primitive, cette vertu est liée à la pratique inlassable de l'amour. Donc j'ai envie de dire que c'est une vertu qui est ancrée, c'est une habitude dans la personne, c'est une volonté forte qui est vraiment en lui de faire des choses qui sont utiles et bonnes aux autres. Les dirigeants doivent être amis du bien. Et je pense qu'on a tous tendance à vouloir faire confiance à quelqu'un qui nous veut du bien, n'est-ce pas? Comment peut-on montrer l'exemple aux autres si on ne leur veut pas du bien? L'ancien est aussi quelqu'un de modéré. On le voit aussi en Timothée. Ce mot exprime beaucoup la maîtrise de soi. Et particulièrement dans le domaine du bon discernement, de la discrétion, du bon sens. C'est aussi avoir un jugement qui est sain, qui est juste face aux difficultés. Et c'est une qualité qui est très importante dans le rapport entre les frères et sœurs. L'ancien doit être également quelqu'un de juste. Job était connu comme un homme qui était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Juste signifie aussi droit. C'est vivre conformément aux normes justes de notre Dieu. Parce qu'en tant qu'intendant de la maison de Dieu, l'ancien doit appliquer la loi de Dieu et non la loi des hommes. Et donc il doit être juste selon la loi de Dieu et non selon la loi des hommes. Ensuite, l'ancien doit être saint. 1 Pierre 1, verset 15, Pierre nous exhorte en disant « Mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. » Il dit aussi « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. » Mais ici, la notion de sainteté, c'est la notion de consécration. Un leader doit être un exemple de consécration à Dieu et à sa parole. Vous voulez être modèle pour votre frère et sœur, je ne parle pas d'être forcément ancien, vous devez être un modèle de consécration à Dieu et sa parole. C'est un homme qui résolument est du côté de Dieu en toute chose et cherche à lui plaire. Il est fidèlement accroché à la vérité, fidèlement accroché à la parole de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les montagnes russes, peu importe les pressions autour de lui. Il conduit avec consécration, avec sainteté, avec consécration totale à Dieu. L'avant-dernier, on est presque à la fin, l'ancien doit être tempérant. L'ancien tempérant marche avec Dieu dans l'intégrité de son cœur. Je vous lis ce que MacArthur a décrit sur ce point. J'avais du mal à donner une définition à tempérant. La grâce de Dieu agit continuellement dans sa vie, dans la vie de celui qui est tempérant, au point qu'il jouit de la maturité spirituelle et de la pureté morale. Il devrait pouvoir dire avec Paul, « Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, une sagesse des hommes, mais avec la grâce de Dieu. » C'est ce qui est écrit en 1 Corinthiens 12. Ce n'est pas que les normes de base de Dieu soient plus élevées pour les anciens que pour les autres croyants. Dieu a les mêmes exigences pour tous les croyants. Tous les croyants doivent être parfaits comme leur Père Céleste est parfait. Le chrétien qui mène une vie insouciante et impure ne perd pas le salut. Le chrétien qui est reprochable ne perd pas le salut. Mais par contre, il perd le droit à diriger dans l'Église. Donc dans ce sens, oui, les normes de Dieu sont plus élevées pour ceux qui aspirent à diriger dans l'Église. Dernier point, il est propre à l'enseignement. Alors, dans le texte, on a plutôt lu, et je vais les lire avec une autre version, ce verset 9, l'évêque est donc attaché à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé du savoir-être de l'ancien, et là, on s'approche plutôt du savoir-faire. C'est le premier ministère de l'ancien. C'est un gardien de la sainte doctrine, c'est-à-dire un gardien de la sainte vérité en Jésus-Christ, de la parole de Dieu dans sa totalité. D'abord, quatre petits points dans ce texte qui fait référence à l'enseignement. D'abord, il doit être attaché à la parole. Le premier conseil, c'est que l'enseignant doit être attaché à la parole de Dieu. Ici, le mot « attaché » vient de deux mots grecs, « avoir » et « contre ». C'est l'idée d'avoir quelque chose contre soi-même qu'on tient ferme, qu'on s'approprie, qu'on chérit, et c'est bien le sens d'un attachement. L'ancien est attaché à la parole qui tient contre son cœur. C'est quelque chose qu'on garde précieusement contre soi parce qu'on y tient, parce qu'on l'aime, parce que ça fait partie de notre quotidien et de notre cœur. Ensuite, l'ancien est fidèle à la parole. Dans le texte, il est écrit « la vraie parole telle qu'elle a été enseignée ». Une autre traduction dirait « la parole qui est digne de confiance telle qu'elle a été enseignée ». L'ancien, donc, pour être leader, il doit être une personne qui est attachée, une personne qui est de la parole, qui est attachée à la parole, mais aussi qui est fidèle à cette parole. Le leader chrétien n'est pas là pour inventer une nouvelle parole. Il est le messager de Dieu, le propriétaire, auprès des autres. Donc ce que Dieu cherche comme leader dans l'Église, ce sont des gens qui sont fidèles à sa parole pour l'enseigner, la proclamer, pour la transmettre fidèlement. Et c'est normal parce que notre Dieu est l'architecte, le divin architecte. Mais heureusement, il nous a donné des plans, il nous a donné un outil, sa parole, la Bible. Dieu chérit son Église, et pour que son Église s'épanouisse au maximum, pour qu'elle reflète sa gloire, pour qu'elle connaisse la richesse de sa présence, de sa puissance, il nous a donné des instructions dans sa parole. Donc, les responsables d'Église sont appelés à être d'authentiques, amoureux de la parole de Dieu, fidèles à sa parole, dans un but d'exhorter, d'encourager. Après toute cette liste longue de qualifications du caractère nécessaire pour le rôle d'ancien, de responsable d'église, on a cette compétence, celle d'enseigner. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la liste des qualifications en 1 Timothée, où il est écrit qu'il doit être propre à enseigner, capable d'enseigner. Ici, encourager, exhorter et réfuter. Alors l'exhortation est étroitement liée à l'enseignement. Les deux sujets sont très proches. Autant l'enseignement nourrit, avant tout, on va dire, plutôt l'intellect, autant l'exhortation vient influencer notre conscience, notre cœur, le fond de nous, la volonté de nos actions. Donc l'exhortation va plutôt chercher à inciter les gens à vivre ce qui est proclamé, à appliquer la vérité dans sa vie. Donc l'ancien doit être capable d'exhorter, d'encourager ses frères et sœurs à vivre la vérité du Christ dans leur vie. Et enfin, l'ancien doit être capable de réfuter. Il doit pouvoir prendre position, il doit être capable de se défendre, défendre la vérité en tant que messager de Dieu, garder les bonnes priorités. Pour être leader, il doit savoir défendre sa position, la vision de Christ pour son Église. Parce que si la direction n'est pas claire, le troupeau s'éparpille. Donc l'ancien défend la sainte doctrine contre les fausses doctrines. On peut donc dire que dans un environnement, celui de Crète, mais également le nôtre aujourd'hui, un environnement qui est menaçant. Les églises ont principalement besoin de bergers anciens, de pasteurs anciens, qui soient fermement attachés à la parole de Dieu et capables d'exhorter, d'enseigner et de reprendre. Voilà les qualificatifs de l'ancien qui doit être modèle dans l'église, qui doit être celui qui conduit, celui qui montre à tous comment exercer cette vie de piété. Bon, vous avez vu, c'était du steak ce matin. Mon frère a prêché en 5 fois ce passage. Je l'ai fait une fois. Il y avait beaucoup de choses à dire. Certes, j'ai pas donné beaucoup d'illustrations d'application dans notre vie, mais j'ai voulu vous donner la totalité de l'engagement des qualifications d'un ancien dans une église. Alors, on a vu ensemble, ce matin, je le rappelle juste, que l'église bien établie s'appuie sur un collège d'anciens, des anciens qui sont irréprochables et qui sont qualifiés moralement et spirituellement, des anciens qui sont qualifiés dans la connaissance de la vérité, la parole de Dieu, afin d'être capables d'exhorter et de réfuter. Alors, pour nous, aujourd'hui, vous allez me dire, est-ce que vous aspirez à ce rôle d'ancien ? Peut-être pas. Toujours est-il que c'est la responsabilité de l'Église, de mettre en place des anciens, de voter pour les anciens. Aujourd'hui, nous avons un conseil pastoral à l'Église, avec mon père comme pasteur ancien, et des diacres. Nous n'avons pas d'autres anciens que mon père pasteur. Cela révèle un besoin dans notre Église, besoin d'avoir des anciens. Bien sûr, en tant que diacre, on fait déjà ce rôle, cette fonction quelque part d'ancien pour le bien de notre assemblée. Mais l'Église a besoin d'anciens. Et je vous pose la question, est-ce que vous priez pour vos responsables ? Est-ce que vous priez pour ceux qui dirigent l'Église ? Ne vous limitez pas à prier pour le pasteur. Priez beaucoup pour le pasteur, mais priez aussi pour tous les responsables de l'Église qui en ont vraiment besoin. Priez pour que Dieu établisse des anciens dans notre assemblée. Priez pour que Dieu suscite parmi nous de nouvelles vocations, de nouvelles personnes qui voudront prendre cette responsabilité devant Dieu, d'intendant, d'économe. Et à la lumière de tout ce qu'on a vu, je vous invite également à être chacun un modèle pour votre frère ou votre sœur. Bien sûr que tout ce qu'on a vu concerne les anciens. Mais on a vu aussi qu'on est membres les uns des autres, comme un corps. Nous sommes interdépendants. Et nous avons tous besoin de modèles autour de nous. Montrons chacun l'exemple à celui qui est à côté. Soyons tous, sans condition, sans exception, je veux dire, irréprochables. Aspirons tous à ces qualifications, qui sont les qualifications pour tout chrétien. Soyons modèles dans nos familles. On a vu qu'il y avait un parallèle fort entre le chef de la famille et le rôle d'ancien. Soyons des modèles dans notre famille. Prions pour être des modèles autour de nous. On va conclure avec la prière. Père éternel, je te remercie pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous enseigne. Et ce matin, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce passage où tu nous enseignes le rôle de l'ancien, le rôle des dirigeants. Et Seigneur, nous te prions de susciter des anciens parmi nous. Nous te prions de aussi nous en envoyer, peut-être d'autres. Nous te prions pour les responsables de l'Église. Puisses-tu les conduire avec toute ta patience, ton amour, afin qu'ils soient qualifiés comme tu le souhaites. Puisses-tu dans notre vie te révéler pleinement, nous donner à cœur d'être saint comme tu es saint, de nous donner cette volonté d'être modèle autour de nous, cette volonté d'aspirer à des belles choses, à des qualifications, à être irréprochable devant les hommes, dans cette église et envers le dehors. Seigneur, tes exigences se sont élevées, mais le sang de Christ à la croix fut d'un grand prix également. Loué sois-tu par ta grâce, loué sois-tu parce que tu nous as rejetés à nous qui sommes pécheurs, qui sommes imparfaits. Puisses-tu nous donner les capacités de te ressembler plus. Amen.